Mais pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche matin? Pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche matin? Alors ce matin, je vais vous poser des questions et vous avez le droit de me répondre, sinon je vais avoir l'air un peu idiot, ok? C'est quoi le but d'un culte? Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Pourquoi est-ce que c'est différent ce qu'on fait ici qu'on ne peut pas faire chez soi? Communion fraternelle, bon, je peux inviter tout le monde à manger un croissant chez moi le matin. Alors adoration, je peux adorer Dieu dans ma douche, dans ma voiture. Enfin, c'est pas une mauvaise réponse.
Adorer ensemble.
Et j'espère qu'on vient pour ça. Adorer ensemble, quelque chose ensemble, mais pareil. On peut le faire sous un arbre, quelque part, sans toute l'église, en petit groupe. Qu'est-ce qui fait que ce qu'on vit aujourd'hui est important, ou essentiel même? Un commandement de Dieu, se rassembler. Donc c'est vrai que Dieu nous demande de le faire, donc c'est une bonne chose de le faire. Mais finalement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi un culte? Rendre grâce, alors c'est important de pouvoir rendre grâce. Mais encore une fois, j'espère qu'on rend tous grâce à Dieu continuellement. Ce matin, dans la voiture, on a fait un petit tour de prière. Et pour la première fois de sa vie,
ma fille de 2 ans a prié. Et donc on a tous prié, puis après elle dit « mon tour ». En ce moment, c'est ce qu'elle dit « mon tour ». Et puis elle dit
« Merci pour les gens, amen ».
Bon, j'espère que ça vient du cœur. Bon. Pourquoi est-ce qu'on se réunit?
Et qu'est-ce que ça change? Alors on le met à part, donc c'est un temps sanctifié,
un temps saint,
un temps mis à part. Donc ça c'est vrai.
Mais on est aussi appelé à avoir toute notre vie mise à part, et quand on consacre un culte en famille aussi, on peut avoir un temps mis à part. C'est bien, je vous vois réfléchir, c'est bien. En fait, ce qui se passe dans les églises, c'est que souvent, on fait les choses parce qu'on les fait. Et aujourd'hui, on va parler de la louange, et très souvent, la louange, ou la forme, le fond, tout ça, on imite ce qu'on a reçu d'avant. Mais on se pose pas souvent les questions, mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et pourquoi est-ce que je le fais de la manière avec laquelle je le fais? On peut être rapidement dans des traditions, dans des préférences, tout simplement parce qu'on n'a pas, et on peut avoir un bon cœur en disant, oui, je prends plaisir à ces choses-là. Et je sais qu'on a un temps consacré à la louange tous les dimanches, donc on y met du cœur, on y met du temps. Mais est-ce qu'on sait pourquoi profondément, si on devrait le résumer en une phrase, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Est-ce qu'on pourrait vraiment le nommer? Alors de manière un peu plus générale, je vous rassure, je répondrai à la question un peu plus tard, maintenant que vous m'écoutez. Okay. De manière un peu plus générale, à quoi ça sert un culte? Même, on repense qu'il y a 2000 ans, un culte païen, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que les païens faisaient un culte, par exemple? Pour honorer leur Dieu? Pour demander, avoir une espèce de relation? Offrir des sacrifices? Essayer d'obtenir la grâce de
ces bons dieux?
Quoi d'autre? Un sentiment de trouver du sens. Un culte, voilà, ça a le but de dire, mais voilà, dans ma vie quotidienne, il y a du sens, parce qu'il y a une dimension plus grande dans laquelle je me suis consacré. Vous êtes allé déjà dans un mariage ou un enterrement où il n'y avait pas de culte? À quel point c'est mort? À quel point c'est vide en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement mal à l'aise. Les cultes ont pour but de donner du sens et de rythmer notre vie. Et c'est pour ça qu'on se réunit toutes les semaines, ça donne un rythme, ça donne une respiration, ça donne du sens à tout ce que nous faisons. Dans le monde occidental, quels sont selon vous les grands cultes du moment? Qu'est-ce qui rythme notre vie? Qu'est-ce qui fait que le lundi matin, tu vas bosser et ça te donne envie de bosser? L'argent? Vous bossez ou pas? Enfin, une obligation, si, un devoir? J'ai l'impression que le culte le plus... Alors, toutes les idoles peuvent faire un culte.
Le lien entre culte et culture est très fin. Ça vient du même mot, et on voit souvent ce que les gens pratiquent dans leur culture est très proche du cœur et de l'adoration. Mais dans l'Occident, j'ai l'impression que le culte central de l'Occident, en tout cas en France, c'est le week-end et les vacances.
Tu vas au travail parce que tu sais que le week-end, tu auras toutes ces valeurs, ta liberté, ton temps libre, ta possibilité de dépenser, de prendre plaisir, d'être centré sur toi peut-être. Et en fait, toutes les valeurs de notre génération, bah, les gens vont au boulot parce qu'ils savent qu'il y a ça derrière. C'est ce qui donne du rythme, c'est ce qui donne du sens. Et nous, on se réunit en dimanche matin, en compétition, en concurrence, avec la grande idole de notre génération. Alors, quand on regarde dans la Bible, sur un culte, la Bible dit très peu sur la forme d'un culte. La Bible ne dit pas, bah, quand vous réunissez, voici les éléments que vous devez absolument faire. Au début, il y a un gars qui doit venir devant et consacrer le culte. Et puis, quand vous jouez des instruments, il faut une guitare, une batterie, une basse, un piano, et surtout pas du ukulélé. La Bible ne parle très, 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 très peu de la forme, mais elle va parler du fond. Mais en même temps, quand tu regardes dans la Bible, on voit cette directive des cultes qui est pour l'édification commune. Que tout ce qui est fait, Paul le dit, tout ce que vous faites quand vous vous rassemblez, bah, c'est pour se construire l'un l'autre. Et là, clairement, on ne peut pas faire ça tout seul chez soi. Tu ne peux pas te construire tout seul. Tu ne peux pas t'édifier tout seul. On a besoin d'être ensemble. Quels sont des éléments, alors je vais vous poser une autre question. Quels sont des éléments bibliques qu'on voit pour, pas forcément de manière prescriptive, mais descriptive, dans la Bible de culte? Qu'est-ce qu'on voit que les premiers chrétiens faisaient quand ils se réunissaient? Et je pose cette question parce que nous, les évangéliques, on a beaucoup réagi par rapport à la liturgie, peut-être des traditions. Et en fait, on réfléchit moins aux éléments d'un culte. Mais on a tous une liturgie. Donc j'aimerais vous poser la question, quels sont les éléments d'un culte qu'on revoit peut-être dans le Nouveau Testament? Donc rompez le pain, donc la scène. Quelqu'un a dit les chants, oui absolument, ils chantaient ensemble. Il y avait la parole, la prière. Il y en a quatre. Ouais, l'encouragement mutuel et l'utilisation des dons spirituels, on peut mettre ça ensemble peut-être. J'en ai noté 20 moi dans la Bible, on en a 5. Leur partage des pains, il y a oui, du bien, c'est ça. Il y a dans la Bible, comme dans les premières églises, il y avait deux aumônes. Il y avait l'aumône pour l'église et l'aumône pour les pauvres. Enfin, l'aumône, c'est peut-être que pour les pauvres. En fait, il y avait deux offrandes. On va regarder un petit peu la liste. Donc, il y a la prière en commun. C'est bien des moments ancrés dans la parole, la lecture des Écritures. Le premier culte qu'on a en liturgie vient de Justin Martyr, vers 150 après Jésus-Christ, et il disait, il lisait la parole avec autant de temps qu'il leur était imparti. Les gens n'avaient pas la Bible chez eux, donc le gros du temps qu'ils pouvaient consacrer, c'était à la parole, à la lecture et à l'explication. La prédication de la parole, le partage du repas du Seigneur, donc ces choses-là, on n'a pas mentionné à la lecture, mais on a mentionné à la prédication, le chant, les offrandes, on a nommé tout ça, des confessions de foi. Les gens avaient des confessions de foi et ils savaient ce qu'ils croyaient. De nos jours, dans le monde évangélique, on est en train de renier certaines des valeurs les plus essentielles de l'évangile. La Trinité, on entend ça de plus en plus autour de nous, dans des églises évangéliques, des gens qui commencent à croire ça, mais tu te dis, mais quand c'est que tu as récité une confession de foi? Donnant et recevant des bénédictions. Ça vous est déjà arrivé de bénir quelqu'un? Moi, je trouve que c'est magnifique de prendre quelqu'un à part et dire, je vais prier pour toi, que le Seigneur te bénisse. Je ne suis pas en train de parler d'un truc mystique. On est des prêtres, n'est-ce pas? Une nation de prêtres. Et le rôle d'un prêtre, c'est de bénir. Et de prier quelqu'un pour le bénir. Mais c'est quelque chose de tellement beau. Moi, j'aime bien finir les cultes, des fois, juste avec une prière de bénédiction, on se bénit les uns les autres. En se saluant. Donc, on se fait 3 bises ici, c'est super. On fait beaucoup de zèle. La Bible dit, voilà, un bisou, mais nous, on en fait 3. Enfin, vous. Moi, j'en fais que 2. En répondant par un amen. Et ça, je trouve ça intéressant parce que dans les éléments de culte de l'Église primitive, on voit beaucoup de participation de l'Assemblée. Et de nos jours, on a tendance souvent à écarter ça un petit peu. Tu viens, tu t'assois, tu repars. Mais en fait, est-ce que tu as vraiment rendu un culte à Dieu si tu n'as pas été participatif? Si on n'avait pas besoin de toi? Est-ce que vous pensez que l'Église a besoin de vous ce matin? J'espère que la réponse est oui. Il y a un silence, ok. Des témoignages et des paroles à propos. Donc la parole à propos, c'est un petit peu ma compréhension de quand Paul parle de prophétie, qu'il y a une parole de l'Éternel pour un temps. Ce n'est pas forcément des nouvelles révélations, mais c'est la révélation de Dieu pour notre jour. L'expression de la reconnaissance, on a mentionné ça. Presque à chaque fois qu'on parle des rassemblements de l'Église, il y a cette attitude de reconnaissance qui est soulignée. On a besoin d'être reconnaissant. On va en parler un petit peu plus, c'est dans notre passage en Colossiens 3, mais on va y venir, je vous promets. Mais est-ce que vous vous rendez compte Alors, j'habite en France. Il y en a qui habitent en France ou qui travaillent en France. Quelle est la dernière fois qu'on vous a dit merci au travail? Quelle est la dernière fois qu'on vous a offert une louange? Pas de l'adoration, mais tout simplement de valoriser ce que vous avez fait. On est dans une culture qui ne loue pas, qui n'encourage pas, qui n'est pas plein de reconnaissance. Vous imaginez l'effet que ça fait quand on va dans une église où il y a 150 personnes qui disent merci en même temps? À quel point c'est surnaturel? Ce qu'on vit dans l'église, c'est absolument phénoménal. Confession des péchés. Pas que j'ai envie de revenir au catholicisme, mais dans la liturgie catholique et dans la liturgie de Calvin, il y avait une confession de péché presque au début de chaque culte. Aujourd'hui, on n'a presque pas de chance sur la confession des péchés, sur la repentance. Et je pense que c'est un des éléments qu'on a oublié dans nos cultes. On ne se repent plus. Le problème, c'est qu'on en a besoin. Ok. Le baptême, bon, ça c'est une des choses que Jésus a instauré pour l'église. La communion fraternelle, la discipline, discipline d'église, ça on aime bien, c'est notre moment préféré dans l'église. L'affirmation de vœux et de serments. Peut-être quand on consacre quelqu'un au ministère. Mandater des responsables, en imposant les mains des fois. Le jeûne. Les annonces pratiques, ça on est bon, les évangéliques, on les donne. Alors si je devais répondre à une question, en une phrase, quel est le but d'un culte? Ma formulation, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais ce que je dirais c'est que le but d'un culte c'est de revivre l'évangile. Pourquoi revivre? Parce que c'est plus qu'entendre. Revivre c'est que tu te plonges dedans et tu es en train de acter ce que Dieu a instauré dans l'évangile. Quand quelqu'un se fait baptiser, est-ce que c'est juste intellectuel ou c'est plus que ça? C'est physique. Ton corps, il est plongé sous l'eau. Et si le gars, il te sort pas de là, tu meurs. Donc la mort est symbolisée. Et puis le renouvellement de la vie. Quand tu partages la communion, quels sont les sens qui participent? Le goût, le visuel, le toucher. C'est quelque chose qui te fait replonger dans la réalité de l'évangile. Quand tu chantes, est-ce que tu peux chanter sans que ton corps soit engagé, sans que ton être entier soit engagé? Il y a peu de choses aussi engageantes que le chant. Parce que c'est ton être qui vibre. Et quand tu chantes fort, bah là, l'église elle tremble. C'est beau quand l'église chante fort. Et quand on regarde à l'Ancien Testament, j'aime bien les rassemblements, les fêtes. Mais qu'est-ce que Dieu avait partagé à son peuple? Par exemple, quand ils célébraient la Pâque, comment ils célébraient? Est-ce que c'était juste intellectuel? Tu t'assois, tu repars, tu revis quelque chose, tu casses le pain, tu sacrifies les agneaux, tu mets le sang, tu construis des tentes pour les autres fêtes. Il y avait des choses qui nous faisaient revivre la réalité de la grâce. La réalité que Dieu est intervenu dans nos vies et qui nous donne de participer dans cette grâce. Et quand on se réunit le dimanche matin, on est appelé ensemble à revivre l'évangile. Alors l'évangile est une histoire, et j'aime bien parler des cultes comme des mouvements de l'évangile. On a commencé le culte avec un appel à la louange, n'est-ce pas? On est réunis aujourd'hui, on va se consacrer et on va louer Dieu. Et on va finir le culte, qu'est-ce qu'on va faire après le culte? Ben, on va partir. On va avoir une réponse à ce qu'on a reçu. On a, bon je vais suivre quand même ce que j'ai écrit dans l'ordre, de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu. Donc Dieu a pris l'initiative de venir vers nous, et quand on se réunit, ben, on prend l'initiative de revenir vers lui, et de recevoir de lui, de la révélation à la transformation. On n'est pas là juste pour accumuler de la connaissance, n'est-ce pas? On est là pour avoir une transformation du cœur aujourd'hui même, de l'appel à la réponse, et puis un quatrième élément qui est tellement central à l'évangile, du rassemblement à l'envoi. C'est pas ça l'évangile? Jésus-Christ nous rassemble, il nous accueille. D'ailleurs, c'est peut-être une des valeurs françaises qui parlent le plus, l'hospitalité, l'accueil. Et quand tu vas dans une église évangélique qui ne t'accueille pas, tu dis, mais il est où l'évangile? Jésus-Christ, il n'est pas venu pour nous accueillir. Et quand on ne fait pas cet effort d'aller les uns vers les autres, en fait, on est en train de renier l'évangile. Parce que c'est ce que Christ a fait. Donc on se rassemble, on s'accueille, on salue, on s'aime. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Ben on part pour être des ambassadeurs, des témoins de Christ là où on va. C'est ça, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que les fêtes n'étaient pas simplement des moments intellectuels, juste d'enseignement, mais c'était un moment pour revivre l'évangile. Et puis dans nos cultes évangéliques, j'ai l'impression que, en termes de ce qu'on a hérité de l'Ancien Testament, on a deux mères. On a les cultes des synagogues, il n'y avait pas de musique, c'était plus familier, c'était plus calme. Et puis il y avait les cultes du temple, où là c'est la méga teuf. Et nous, des fois, dans les églises, on est un petit peu dans le spectre. Des fois, on est plus à gauche, des fois, on est plus à droite. Et je pense qu'on a la liberté de ça. On a la liberté de ça. Alors, on va quand même se tourner vers le passage. Voilà, ça c'est une petite boutade. Colossiens 3, versets 16 et 17, c'est notre passage d'aujourd'hui. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance, à Dieu le Père. On voit Paul qui parle très très peu de la forme, mais ce qui compte pour lui, c'est notre attitude. Et aujourd'hui, dans ce passage, j'aimerais parler de quatre attitudes pour la louange qui nous concerne tous. Quatre attitudes de la louange qui nous concerne tous. Alors vous voyez, Colossiens 3:16, on pourrait passer des heures à discuter toute la profondeur de ce passage. Voilà, la parole, c'est biblique, de Christ, christocentrique, habite en vous, ça sature l'être entier, dans toute sa richesse, ça nous impacte à des niveaux différents. Instruisez-vous, elle est instructive, avertissez-vous, elle est corrective, les uns les autres, en toute sagesse, elle est partagée, elle est intentionnelle, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, elle est variée. Chantez pour le Seigneur, festive, dirigée vers Dieu, de tout votre cœur, elle engage l'être entier, sous l'inspiration de la grâce, conduite par la grâce. Aujourd'hui, on va se concentrer sur quatre attitudes. Et la première attitude de la louange, c'est d'être enseignable. On l'a vu, Paul cite que quand on chante les uns les autres, on est supposé de faire quoi ? Quel est le premier verbe qu'il donne ? En impératif ? Instruisez-vous les uns les autres. Vous saviez que quand vous chantez, vous enseignez quelqu'un ? Que quand vous chantez, vous prêchez d'une certaine part la parole de Dieu ? Et moi, j'aime bien dire à mon assemblée que moi, quand je prêche, je suis une voix qui proclame l'évangile. Mais quand un visiteur vient dans l'église et qu'il entend 200 personnes prêcher les vérités de la parole de tout leur cœur, vous ne pensez pas que ça a un impact ? Nous sommes ici pour enseigner quand nous chantons. C'est pour ça que les paroles sont importantes. Un théologien disait « Je pense réellement que nous sommes ce que nous chantons. » Une théologie superficielle produit une musique superficielle et la musique superficielle produit de la théologie superficielle. C'est un cercle vicieux. Le défi de notre génération est de réinsérer de la théologie autant dans nos vies que dans notre musique. Quand je regarde à l'épaisseur de la Bible, à toute la richesse qu'on a dans la Bible, il y a tellement de thèmes que nous ne chantons pas. On chante souvent les mêmes thèmes, n'est-ce pas ? On chante l'amour, on chante la joie, on chante la croix. On ne chante pas autant la sanctification. On chante peu sur notre espérance au ciel. On chante peu sur la Trinité ou sur le Saint-Esprit. Sur la vie de l'Église, on chante très peu sur la vie de l'Église. Il y a tellement de choses riches dans la parole. Parce qu'on choisit les chants peut-être les plus populaires avec les meilleures mélodies, on est déséquilibré très souvent dans notre louange. Et Paul nous invite à connaître cette parole et à chanter cette parole dans toute sa richesse en s'instruisant les uns les autres. C'est puissant quand nous chantons, nous sommes au service de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait cette parole ? Je cite Ésaïe 55. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. Sans l'avoir fécondé et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. On a chanté des paroles tellement puissantes ce matin. On s'est prêché les uns aux autres un message tellement puissant. Tellement engageant. Avons-nous des cœurs enseignables ? pour recevoir ces paroles que nous avons écoutées ce matin. De ne pas vivre par nos propres forces, mais par Christ en nous. D'avoir les yeux rivés sur Christ, de trouver notre ancrage dans la croix. Et le fait est qu'on peut venir dimanche après dimanche à l'église, chanter à pleine voix à chaque fois, mais si notre cœur n'est pas enseignable, si on ne vient pas pour être instruit, si on n'est pas humble, prêt à recevoir la parole, ben on peut repartir exactement de la même manière qu'on est venu. Paul nous encourage à avoir cette attitude où on se laisse nourrir, on se laisse transformer, on se laisse enseigner. La parole est pleine de merveilles qui nous fait chanter. Vous savez que le premier concert a eu lieu lors de la création du monde. Job 38, on voit les anges qui chantent. « Où qu'en étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle ? Sur quoi ses bases repose-t-elle ? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Notre univers a commencé dans la louange, avec un concert de louanges. D'ailleurs, bon, c'est pas le point principal, mais si vous croyez dans l'évolution, un chant de millions d'années, ça aurait été un peu fatigant pour les anges, je pense. Mais vous imaginez la scène. Dieu crée le monde et les anges y proclament la grandeur de Dieu en s'instruisant les uns les autres. On a un but d'être enseignable, mais l'enseignement, c'est aussi un don. Et quand je pense à la louange dans notre église, on s'est aperçu que tout le monde n'avait pas les mêmes dons. Et certaines personnes ont des dons musicaux, mais n'ont peut-être pas le don de berger, d'accompagner les gens dans la parole. Certaines personnes ont le don d'enseignement pour discerner des bons chants, et d'autres personnes ne vont pas avoir ce don. Certaines personnes vont avoir le don de chanter juste, alors que d'autres personnes qui peuvent choisir des bons chants et être des bons animateurs vont chanter faux. Et quand on a ce cœur de vouloir enseigner, il est important aussi que les bonnes personnes soient aux bons endroits. Et ce qu'on a discerné dans notre église, c'est qu'on avait des dons différents. On a un don d'architecte, quelqu'un qui va réfléchir à tous ces éléments de culte. Comment faire que le culte il soit frais ? Comment faire que le culte il nous fasse revivre l'évangile, que ce ne soit pas juste de la routine, qu'on réfléchisse à chaque élément de notre temps ensemble. Un chanteur lead, quelqu'un qui peut nous porter par sa voix parce qu'on sait qu'il va pouvoir mener le chant. Un hôte, quelqu'un qui va nous accueillir, qui va nous rassembler, qui va nous donner envie de chanter. Et puis le musicien, qui va pouvoir conduire les musiciens, chacun à sa place. Voilà, quand on regarde un petit peu, alors je sais pas ici, mais quand tu vas dans d'autres églises, parfois tu regardes à certains rôles d'animateurs qui font un peu sourire. Moi je sais, mon prédécesseur disait souvent, j'ai jamais entendu quelqu'un critiquer parce que son animation était trop précise. En général, la critique c'est qu'on parle trop en tant qu'animateur. Et moi j'aime bien mesurer un culte en termes non seulement de temps, mais aussi d'énergie émotionnelle et mentale. Et quand tu reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le temps de préparation, de louange, d'exhortation, bah des fois tu es fatigué quand tu arrives au message. Enfin, on est humain, on n'a pas une énergie infinie. Et nous, donc, on décourage les animateurs à être des prédicateurs, plus des exhortateurs. L'animateur dans son monde, qui finalement, il vit son truc, mais tu ne sais pas trop où c'est qu'il est. L'animateur showman, qui est vraiment bon, mais qui est un peu à part. L'animateur paternaliste qui s'avance parce qu'il a son rôle dans l'église, il a quelque chose à dire. Peu importe s'il a vraiment quelque chose à dire. L'animateur improvisateur amateur. Si vous êtes musicien, vous savez que l'improvisation, ça ne s'invente pas. Ça se répète pendant des heures et des heures et des heures avant de pouvoir improviser. Et quand quelqu'un dit, bah non, moi je vais me laisser guider par l'esprit, on va faire ça au feeling. Si tu n'as pas des heures et des heures de réflexion derrière, bah, tu vois que tu arrives un peu sur ta fin. Et puis l'animateur perfectionniste qui a tellement envie que ça rentre dans sa case, qui va devenir tellement stressé que l'église elle chante comme ça et elle ne sait pas si elle a le droit de bouger. Mais Dieu nous a donné des dons à chacun. Et peut-être aujourd'hui vous vous reconnaissez dans certains de ces dons-là et vous avez votre place à pouvoir exprimer ce don dans l'église au bon endroit. Et peut-être à trouver de l'aide si vous avez des responsabilités et ne complète pas les quatre cases. Ok, je continue. Deuxième attitude de la louange dans ce passage. Paul nous appelle à être engagés quand nous louons le Seigneur. Verset 16, que la parole de Christ habite en vous, comment ? Dans toute sa richesse. Paul ne dit pas que la parole de Dieu reste dans votre tête. Paul ne dit pas que la parole de Dieu soit avec les quatre chanteurs qui sont devant, pendant que nous on écoute. Il nous encourage à être engagés, tout l'être, pour connaître une profondeur, un degré particulièrement de connexion avec Dieu et de connexion avec l'Église locale. Et quand on y pense, chanter est un cadeau de Dieu qui façonne son Église de manière tellement, tellement puissante et tellement unique. Chanter aide notre mémoire. Vous avez probablement entendu des histoires similaires. Le grand-père de ma femme avait Alzheimer, perdait sa mémoire, mais pouvait encore citer les cantiques qu'il connaissait depuis son enfance. Il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs quand on chante des chansons et qu'on apprend ces paroles. Ça crée non seulement une mémoire individuelle, mais une mémoire collective. Vous vous rendez compte que ce qui unit une église, peut-être le plus en termes de mémoire, c'est ce que nous avons chanté ensemble. Ce qui unit l'église peut-être le plus en termes de théologie, parce que nous sommes ce que nous chantons, comme on a lu, c'est les vérités que nous avons chantées ensemble. Et je trouve ça assez beau que très souvent, Paul va avoir des encouragements à l'unité, et ensuite il va parler de louange, ou il va citer un psaume, il va citer un extrait de louange, parce que là on se reconnaît. Des chants qu'on a chantés ensemble, des vérités qu'on a chantées ensemble, on s'est mouillé ensemble, on s'est engagé ensemble dans notre mémoire, dans notre être, pour vivre ces paroles. Le chant a une puissance incroyable pour façonner l'église locale. C'est important de bien choisir ses chants et c'est bien important d'avoir la bonne attitude quand nous nous réunissons. Chanter nous connecte à nos émotions. Est-ce que vous avez des émotions dans la salle ? Je sais que des fois on essaie d'être prudent par rapport à tout ça et c'est bien d'être prudent. Mais est-ce que dans la Bible, Dieu est sans émotions ? On voit un Dieu qui est plein d'émotions. Il se réjouit, il s'attriste, il se passionne, il se désintéresse, il se met en colère. Il ressent de la jalousie, de la compassion, de l'amour, même de la haine. Et on est fait à son image. Quand vous pensez à Jésus qui enseigne, par exemple, la parabole du bon samaritain, tu ressens quelque chose dans tes tripes, hein ? Tu ne peux pas juste être impassible à Jésus qui partage ses vérités d'amour pour son prochain. La Bible vient nous chercher dans nos tripes. Et quelque part, si on chante la Bible sans être saisi, c'est qu'il y a un décalage. Et qu'on a quelque chose à faire. Se laisser contrôler par les émotions est dangereux. Mais la Bible nous appelle à nourrir nos émotions. Et j'aime beaucoup comme le psalmiste le dit. Il dit « Mon âme, tu vas bénir l'Éternel ». Il ne dit pas « Mon âme, comment je me sens aujourd'hui ? » Est-ce que c'est le moment, mon âme ? Mon âme, est-ce que j'ai eu assez de frissons pendant les troisièmes chants pour lever les mains au quatrième ? On dit « Mon âme, tu vas bénir l'Éternel ». Je vais te dire quoi ressentir maintenant parce que cette parole de Dieu, elle nous fait ressentir des choses puissantes. Après, j'avoue que en tant que berger, pasteur dans mon église, j'emploie un mot fort, mais je dirais que je serais un traître si je faisais vivre des émotions fortes à mon assemblée sur des choses superficielles. Et très souvent, malheureusement, dans les églises évangéliques, on peut avoir un chant qui n'a pas de parole, on va répéter 50 fois pour qu'on ressente quelque chose de fort, et tu es en train de créer quelque chose de très très fort sur une fondation très très faible. Et ça, en tant que berger pour l'assemblée, pour moi, ça serait trahir finalement l'accompagnement que je dois à mon assemblée. Mais en même temps, si les églises, si les vérités de la Bible sont fortes, est-ce qu'on n'est pas appelé à avoir des émotions quand on chante ces choses-là ? Et notre louange ensemble devrait faire résonner ces émotions que nous avons ensemble. Alors je lis un auteur rapidement qui dit « Les émotions forment une passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur de l'être humain. Le fait de savoir exactement ce que nous ressentons peut déboucher sur des questions que nous préférons ignorer. Mais l'absence d'émotions nous dessèche et nous garde distants de Dieu. » Et j'espère que quand on chante ou quand on se réunit, on vit les mêmes émotions que Dieu lui vit. La tristesse face à la perdition des gens dans notre monde, la joie de la présence de Dieu, la colère face au péché et l'injustice, la confiance en lui en tout temps. Chanter est aussi quelque chose d'intime et relationnel. Comme je vous l'ai dit, chanter c'est physique, chanter c'est mental, chanter c'est quelque chose où on se dévoile, on devient vulnérable, et c'est le langage de l'intimité. Et c'est un langage, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu et qui nous rapproche les uns des autres. Et la Bible nous encourage à avoir la bonne attitude. Quelle est mon attitude envers mon prochain si pendant qu'on chante, je suis comme ça? Non, pas moi, mais par Christ. Elle est où? Il est où le lien de l'église locale où on est ensemble? Je l'ai mentionné, chanter nous engage physiquement. Chanter nourrit l'imagination. Quand tu lis les psaumes, c'est plein d'images qui veulent dire tellement de choses. L'Éternel est mon berger. Combien il y a de vérité là-dedans? Il y en a des dizaines et des dizaines. Il m'accompagne. Il prend soin de moi. Il me protège. Il me nourrit. Il me connaît. On peut penser à tellement de vérités qui sortent juste d'une seule image. Et parfois, pareil, on a un petit peu de pauvreté dans nos chants. Alors que la Bible a des images tellement, tellement puissantes. Et puis chanter fait apprécier ce qui est beau. Dieu est beau. Et nous devrions faire comme le psalmiste, il écrit en psaume 135, verset 3, « Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom, car il est beau. » Et une belle musique nous rappelle qu'on a un Dieu qui est beau et élève notre âme vers ce beau Dieu. Alors je continue avec la troisième attitude. J'en ai parlé un petit peu, mais le fait d'être attentionné. On l'a vu, Paul va donner des instructions qui sont mutuelles. Instruisez-vous les uns les autres. Avertissez-vous les uns les autres dans la parole, en chantant. Ça veut dire que j'ai une responsabilité envers mon voisin quand je chante. Vous aviez déjà pensé à ça? Que vous avez une responsabilité biblique, spirituelle, d'être attentionné à votre voisin quand vous chantez. Nous avons une responsabilité de témoignage. Une de mes choses préférées dans l'église, des fois, c'est arrêter de chanter pour écouter. Et quand tu chantes un chant, par exemple, comme « Quel repos céleste », et tu connais les gens de l'assemblée, tu connais tes frères et sœurs, tu sais que le frère, il vient de perdre sa mère et qu'il est en train de chanter « Quel repos céleste ». Ça ne change pas quelque chose en toi? Quelqu'un qui a perdu son travail et qui chante « Tu donnes et tu reprends, béni soit ton nom ». Chanter les yeux ouverts, on aime bien fermer les yeux et il y a la place pour ça. Des fois j'aime fermer les yeux, mais souvent j'aime ouvrir les yeux. Et des fois me taire, simplement regarder les gens autour de moi. Quelles sont les vérités qu'ils sont en train d'exprimer? De voir quelqu'un qui a réussi dans la vie qui dit « Jésus a tout payé ». Ce qui m'a fait tomber amoureux de mon épouse a une maladie auto-immune et elle a passé la moitié de son adolescence en chaise roulante. Elle a dû abandonner le lycée, elle savait pas si... son médecin lui avait dit t'auras pas d'enfant. Elle s'avançait dans son adolescence avec un futur très glauque. Et je me souviens, arrivée dans l'église, elle était au fond, en chaise roulante, en chantant de tout son cœur. Je me suis dit, si elle est comme ça quand ça va mal, qu'est-ce que c'est quand ça va bien? Donc voilà, je suis marié aujourd'hui à cause de la louange et du témoignage de la louange. On a la responsabilité de penser aux autres. Notre louange, c'est pas juste entre nous et Dieu, c'est aussi avec notre voisin, avec notre frère, avec notre sœur. Ce qui nous donne plusieurs responsabilités. La première, c'est de ne pas être une distraction. On peut être une distraction dans la manière dont on chante, dans la manière peut-être dont on s'habille, dans la manière dont peut-être on n'est pas authentique. La Bible nous appelle à penser aux autres pour que le témoignage puisse être puissant quand nous chantons les uns envers les autres. Des fois, il y a des chants tu visites une église ou tu as un chant que tu n'aimes pas trop le style. Tu dis, ça, c'est pas mon chant. Si les paroles sont bonnes, est-ce que tu as une responsabilité de chanter ce chant pour ton voisin? Que quand tu chantes des vérités bibliques qui partagent ton amour pour Dieu, de dire, non, je ne vais pas chanter mon amour pour Dieu parce que là, il y a trop de croches, je n'aime pas ce chant. Dieu nous appelle à ne pas être centré sur nous-mêmes, mais à se rappeler, on est attentionné parce qu'on a une responsabilité envers les autres. Et des fois, tu chantes des chants, tu dis, c'est pas le meilleur chant, c'est pas une mélodie que j'aime, ou c'est pas mon style. Mais si tu aimes ton prochain, tu vas chanter ce chant. Et tu vas le chanter de tout ton cœur. On a une responsabilité d'être reconnaissant. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant votre reconnaissance. Sommes-nous aujourd'hui pleins de reconnaissance? Malheureusement, j'ai l'impression que dans notre courant évangélique, on vient à l'église les mains vides en disant « Dieu, remplis-moi, remplis-moi, je suis là, remplis-moi ». Qu'est-ce que David disait? Dieu, je ne peux pas venir vers toi les mains vides. Est-ce qu'on vient dimanche matin les mains pleines? Dieu, tu m'as donné tout ça cette semaine! Tu m'as donné la vie, tu m'as donné le toit, tu m'as donné ma famille, peut-être une carrière, tu m'as béni. J'ai les mains pleines et c'est pour ça que je te loue. Ou est-ce qu'on vient les mains vides en disant, bon, Dieu, franchement, donne-moi un petit peu là, je suis un peu vide. J'ai pas reçu grand-chose là ces derniers temps. Est-ce que c'est ça la louange? Dieu nous appelle, et encore je le dis, la reconnaissance est transversale dans tous les appels à la louange. C'est répété encore et encore quand on vient à l'église, on vient les mains pleines, parce que notre Dieu mérite un engagement plein de notre part. Amen. On a la vérité de nous guider les uns les autres dans la vérité. Psaume 32, verset 8, David, dans son chant, dit « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur moi, sur toi. » David écrivait des psaumes pour encourager, pour avertir. Et quand nous chantons des vérités, un engagement de notre part pour suivre le Seigneur, c'est aussi une sorte de témoignage qui guide ceux autour de nous. Nous avons aussi la responsabilité d'être remplis du Saint-Esprit. Quand Paul parle de la louange, en Éphésiens, tout de suite après, il dit « Soyez remplis », enfin, tout de suite avant, pardon, il dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », et ensuite il dit « Exhortez-vous les uns les autres par des cantiques ». Aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'être remplis du Saint-Esprit. C'est une responsabilité pour les croyants. Quel témoignage offrons-nous quand nous venons chanter à Dieu sans être remplis du Saint-Esprit? Et j'ai un ami qui disait, nous les chrétiens, on est très bons pour faire des choses pour Dieu, beaucoup moins avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'attend à ce que Dieu manifeste sa puissance dans nos vies? Et je ne dis pas ça qu'on s'attend à ce que quelque chose descende et que ça soit mystique. Mais est-ce qu'on s'attend à ce que Dieu œuvre aujourd'hui? Est-ce qu'on a prié pour cela? Si nous vivons dans nos rassemblements la puissance de l'évangile, alors nous allons vivre la puissance de la transformation de l'évangile dans nos vies. Mais ça, c'est la participation de tous, dans nos prières, dans notre attitude. Le théologien Cole écrit « Pour qu'une assemblée soit remplie par l'esprit, cela exige à la fois des attitudes, gratitude, révérence, et des activités, discours, chant, soumission réciproque. Le rassemblement chrétien n'est ni un concert d'amusement chrétien, ni une version contemporaine de l'école de Tyrannus où nous nous rassemblons pour entendre une leçon biblique. Plutôt, c'est le temple du Dieu vivant. Christ est mort pour rien de moins. » Est-ce que chacun de vous, vous sentez que vous êtes une pierre vivante remplie du Saint-Esprit, du temple de Dieu? C'est ça que nous sommes aujourd'hui quand nous sommes ensemble. Et puis finalement, nous avons une responsabilité d'écouter les autres. Et comme je vous disais, parfois, quand on chante, une de mes parties, de mes choses préférées, c'est de me taire. Et simplement écouter la louange de l'assemblée. De me laisser instruire, de me laisser encourager, peut-être de me laisser corriger, parce qu'il y a des choses dans ma vie qui ont besoin d'être changées. Et d'écouter ceux qui sont autour de moi, écouter leur foi qui s'exprime par le chant, écouter leur engagement, leur amour pour Dieu, et de me laisser bénir par l'assemblée. Et puis je vais finir avec un dernier point. La responsabilité, enfin la quatrième attitude, c'est festif. Paul nous parle de chanter des psaumes, psalo, ça veut venir de, voilà, tu joues un instrument. Et quand tu lis les psaumes, il y a quand même une attitude de joie qui est assez transversale. Alors tu as quelques chants qui sont du recueillement, tu as quelques chants qui sont des chants d'imprécation, enfin comment tu dis déjà. Mais de manière générale, quand tu regardes à tous les verbes qui parlent de la louange, tu as quand même le vocabulaire de la joie qui en ressort. Un de mes versets préférés sur le sujet est en Hébreux 12, versets 22-23. Ce verset a changé ma vision sur la louange. Au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fête. Aujourd'hui, si tu devais aller dans la présence de Dieu, est-ce que ça serait solennel? Oh, c'est la teuf! Les anges, ils sont tellement contents d'être dans la présence de Dieu, d'avoir ce Dieu joyeux qui bénit, qui remplit de joie, qui ne peuvent ne pas exprimer cette joie. Ils sont incapables de ne pas exprimer cette joie. Il y a une chrétienne dans notre église qui disait « Non, mais moi, j'ai pas une seule émotion et j'en ai marre qu'à chaque fois qu'on commence un culte, on commence avec un chant joyeux. Moi, j'aimerais commencer des cultes de temps en temps avec un chant triste. » Et je dis « Mais la responsabilité, c'est que nous n'avons pas un Dieu triste. » Nous avons un Dieu joyeux. Et c'est normal d'être joyeux quand on se réunit. Alors, ça arrivait qu'il y ait un décès dans notre église la semaine d'avant. Bien sûr, on se recueille. Bien sûr, on va être un peu plus solennel. Bien sûr, on ne va pas ignorer ce qu'on vit. Mais la Bible nous amène à avoir cette attitude de joie quand on se réunit pour célébrer ensemble l'évangile, qui est une bonne nouvelle. Amen. Je finis avec cette citation de cet auteur sur l'architecte de la louange qui dit « Dieu le Père nous cherche. Nous ne pouvons pas créer l'adoration. Nous ne pouvons pas fabriquer des cultes, plutôt nous répondons à une personne. L'adoration véritable n'est jamais la conséquence de nos efforts. L'adoration a lieu quand nous apprenons à dire oui de plus en plus de manière à l'appel de Dieu à venir à sa rencontre. » La louange, c'est une réponse. Ce n'est pas quelque chose qui peut être forcé. C'est quelque chose qui vient du cœur parce qu'on est conscient que Dieu a fait quelque chose de puissant en nous.